L'Atelier des médias, Ziad Malouf.
Atelier des médias, merci de votre fidélité. Cette semaine, nous allons vous plonger dans deux univers médiatiques fort différents. Une revue à caractère littéraire, ce sera dans 20 minutes, une revue consacrée à l'Amérique de Donald Trump et une série de podcasts qu'on va explorer tout de suite, nom de code Beatmakers.
Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking
down beats. Je m'appelle David Comeyas, je suis journaliste et producteur et j'ai fait cette série Beatmakers avec Samuel Hirsch.
Je suis Samuel Hirsch, réalisateur sonore à Arte Radio.
Beatmakers, au départ, on avait envie de parler vraiment de musique et de la musique faite avec des machines. Et on est parti un peu du postulat que, en général, quand on parle de ces musiques-là, on parle de comme si c'était une musique moins virtuose que la musique acoustique. Et en général, le propos dévient assez rapidement sur des sujets de société, banlieue pour le rap, pour faire des clips. Et d'autres trucs pour l'électro, enfin bon voilà. Et aujourd'hui, nous, on avait l'impression que c'était une vision qu'on retrouvait encore beaucoup trop dans les médias et dans les fenêtres de communication quand on parle de cette musique, et à la fois que ça pouvait être aussi une musique très élégante, une musique sophistiquée ou une musique très simple et très efficace, et qu'en tout cas le fait que les machines soient au centre du processus de création n'enlevait rien à la valeur de la musique pour nous. Voilà, donc on voulait en parler comme montrer à quel point les compositeurs, les beatmakers sont réellement des musiciens et des artistes à part entière. Imhotep.
Le tout premier truc, c'est un sample, parce que on va dire que c'est quasiment jamais arrivé que le texte soit écrit avant la musique. Pour des raisons de tonalité, de flow, de métrique, etc., ils écrivent sur la musique. Pour IAM, c'est on compose d'abord, même si c'est rudimentaire, ça peut être une base, juste une base du morceau. On compose d'abord et après ils écrivent le texte dessus. Et donc c'est parti d'un de ces fameux samples. Tiré d'un album de musique traditionnelle du monde. Et figurez-vous que c'est l'UNESCO qui s'est chargé de la production. Donc c'est une méditation bouddhiste au Japon. J'ai pas changé ni la tonalité ni la vitesse d'origine. Hein. C'est les autres, je les ai adaptés par rapport à celui-là, comme c'était un peu le fil conducteur.
Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, je monte mon énergie. Réveille la bête qui dans mon âme est tapis. Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du serval. Le souffle des quatre vents décuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens.
Qu'est-ce que ça veut dire beatmakers justement ?
Bah, c'est une expression qui a été plus populaire dans les années 90, où là ça avait tout son sens puisqu'on était à l'époque des sampleurs, voilà, et c'était des gens qui donc faisaient des beats, littéralement beatmakers, mais surtout en effet tout d'un coup les instruments passaient à un autre plan, ils étaient juste samplés, bouclés, triturés dans tous les sens, et ça, là ça avait vraiment tout son sens. Ça a un sens un peu différent aujourd'hui et c'est aussi ce qui nous a intéressé avec Sam, c'était de montrer comment finalement ce genre de compositeur qui se sert beaucoup des machines, leur rôle et leur position ont évolué. Et du coup, montrer qu'en 2017, on peut être... la machine finalement est devenue vraiment un instrument, en fait. Enfin, les machines sont devenues des instruments et finalement des grands musiciens, des gens qui ont fait le conservatoire ou d'autres qui sont complètement autodidactes, s'en servent au même titre qu'on peut prendre un violoncelle, quoi.
Ils sont musiciens, ils créent de la musique, ils sont musiciens. Et même, on pourrait dire quelque part qu'ils sont quand même instrumentistes, parce qu'au fur et à mesure, la machine devient un instrument, l'ordinateur devient un instrument, et ils le maîtrisent à la perfection, ces gens-là. Mais il y a toujours cette chape de plomb de l'éducation traditionnelle de la musique, ou aussi être musicien, ça veut dire de jouer d'un instrument. On est encore tous, même les plus jeunes, on est encore dans cette forme, dans ce formatage-là. Mais je pense que, bah, d'ailleurs, une série comme Beatmakers peut permettre de faire bouger les lignes, quoi, et de faire comprendre que ces gens-là sont musiciens et même sont instrumentistes.
Tu parles du matériel, c'est aussi un des personnages principaux de cette série. Chaque presque chacun des beatmakers, des producteurs que vous rencontrez, vous parle avec passion, respect, amour du matériel, souvent explique que son inspiration est venue de tel matériel qu'il venait de recevoir ou que l'évolution de son style est fonction du matériel qu'il expérimente au fur et à mesure.
Moi, je suis très geek des machines pour faire de la musique. Et donc, il y avait une volonté d'une part de parler aux gens comme moi qui aiment bien savoir comment sont faites les choses, avec quel matériel, etc. Et d'un autre côté, souvent les gens sont un peu rebutés par ça. Dès qu'on parle technique, ils ferment leurs écoutilles, ils veulent rien comprendre. Et le média radio, en fait, permet de faire comprendre comment ça marche, ces choses-là, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, en écoutant cette série, qu'ils connaissaient rien au fonctionnement des machines, à comment ces choses-là marchaient. Mais
les machines, ça, c'est des sampleurs, des filtres, des choses comme ça.
Voilà, et puis maintenant, même l'ordinateur et la batterie de logiciels qu'on peut avoir pour fabriquer de la musique. Et je trouve que par l'exemple, on comprend comment fonctionnent les choses, quoi. Quand un type parle d'un son de synthé, à un premier abord, on peut se dire, c'est quoi un synthé, qu'est-ce que ça fait? Hop, on l'entend et on comprend. Prend très vite le beat, la façon dont se décompose un beat et comment on le construit, si on l'entend, ça coule de source, pour moi, je trouve.
Étienne de Crécy.
Alors, je siffle jamais de trucs dans la rue, moi. J'ai pas d'imagination de musicien. C'est quand je suis confronté à mon matériel que l'inspiration vient. Donc, en général, effectivement, je cherche d'abord sur des synthés ou un son ou un truc comme ça. Et là, il se trouve que sur ce morceau-là, justement, l'idée de départ, c'était les claps. Il y a les claps de 808. Il y a des claps que j'ai enregistrés moi-même. Et en fait, l'idée que j'avais eue, c'était ça. C'est-à-dire la réverb des claps, je l'ai enregistrée et je l'ai coupée. Parce que d'habitude, quand tu mets une longue réverb, ça dure pendant très longtemps et en fait, ça mélange le son. Et là, je m'étais dit, en fait, l'idée de ce morceau-là, c'était ça. Je m'étais dit, à chaque fois, sur le kick d'après, la réverb s'arrête. Le mouvement, en fait, c'est t'as le kick, le clap et la réverb s'arrête sur le prochain kick. Et donc, ça, c'était l'idée de base de Hashtag Mayas, voilà.
Ce qui est intéressant aussi avec les personnages que vous mettez en avant, dont vous racontez le processus créatif, c'est que ce sont en général les personnages les moins connus de ces musiques qui souvent sont très connus. Donc, je pense à Imhotep, le premier, donc pour IAM. On connaît bien IAM, on connaît bien les chanteurs d'IAM qu'on voit un peu partout. On connaît moins Imhotep et on se rend compte en écoutant que des personnes qui sont pratiquement les compositeurs, en fait, et qui sont vraiment à l'arrière, enfin au centre de ces compositions, sont vraiment inconnus, et alors qu'on connaît souvent leurs morceaux, etc.
Oui, c'était déjà finalement un peu le cas dans d'autres musiques comme le rock ou d'autres choses. Enfin, on connaît toujours la gueule du chanteur, le frontman, c'est lui qu'on va retenir, c'est lui qu'on va regarder. Alors que peut-être l'originalité du groupe se fait dans l'alchimie entre la basse et le batteur, quoi. Le bassiste et le batteur. Donc voilà, il y a l'image du grand public. Par exemple, Maître Gims, sapé comme jamais, ça restera pour tout le monde et pour toujours Maître Gims. Mais en fait, peut-être qu'il y a un... Maître Gims est peut-être un génie, mais en fait, il y en a un autre derrière aussi. Et je pense qu'en effet, le titre, il n'existe pas s'il n'y a pas Danny Sinté qui apporte toutes ses marimbas et ses presque 40 pistes, finalement, sur l'instrumental. Et c'est un peu pareil dans toutes les musiques, quoi. Enfin, il y a la façade... pour que ça intéresse le grand public. Et derrière, dans l'ombre, il y a toujours des gens qui travaillent. Et nous, on avait envie de mettre la lumière sur ces gens-là.
Danny Sinté.
Le tout premier élément, c'est l'espèce de flûte marimba mélangée là, que Gims avait. En fait, c'est un air qu'il avait dans son portable qui s'était enregistré il y a quelques temps avant qu'on fasse le titre. Et on finissait l'album. En fait, il nous restait 24 heures, je crois, pour terminer l'album et rendre les bandes. Et puis il me fait « Ouais, bon écoute, j'ai une idée, je t'avais parlé d'un son nigérian que je voulais faire. Tiens, regarde, j'ai l'air et tout, j'ai une idée dessus, viens on essaie de partir là-dessus, on voit ce que ça donne. » quoi. Ça, c'est un truc, il me l'a chanté comme ça. Et du coup, au début, faut capter un peu où il veut en venir, donc j'essaie de jouer le truc, il me dit « Ouais, voilà, non, change juste cette note, ah ben voilà, c'est ça, c'est bon, tu l'as le truc. » Et direct, je l'enregistre. Quoi. Ouais, j'étais au clavier, j'étais là exactement, il était exactement là. Parce qu'il me parlait depuis longtemps de vouloir faire un son afro, mais il se disait ça allait être dans la réédition ou quoi, et du coup là il avait l'air, bon comme il avait déjà l'air, il s'est dit bah tiens regarde écoute l'air. Bah, en fait on attendait, en fait il y avait un rappeur qui enregistrait un couplet pour son album, et pendant ce temps-là en fait il prenait un peu plus de temps que prévu, Du coup, c'est un peu grâce à lui qu'on a fait ce morceau. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, au lieu de glander, il est 3h du mat, viens, on fait quelque chose, quoi. Comme ça, on va pas s'endormir en plus de ça. Donc voilà, et on est parti là-dessus.
RFI.
C'est vrai qu'il y a une nouvelle place de la machine et il y a aussi du coup une nouvelle place du musicien. Et c'était ça qui est intéressant parce que la machine, du coup, en effet, il y a beaucoup d'autodidactes. J'espère qu'on comprend dans notre sujet qu'on peut avoir le plus grand respect pour eux parce que c'est des gens qui se sont fait tout seuls mais qui ont une grande valeur musicale aussi. Et il y a aussi des gens qui ont fait le conservatoire. Et c'est ça qui est intéressant. Danny Sinté, il a fait le conservatoire, quoi, enfin presque. Et du coup, lui, il fait Ça paie comme jamais, qui est considéré par certains comme le truc le plus vulgaire, grand public, alors qu'en fait, quand on décompose le truc, on voit à quel point c'est compliqué, et puis on voit à quel point le mec se dit, tiens, il manque une note dans les tonalités, j'ai pas tout rempli, donc il met une note qui est fixe, qui court, qui a même plus de mélodie. Enfin, il y a quelque chose de très élaboré, finalement, dans ce titre très grand public qui fait 280 millions d'écoutes et qui cartonne dans les cours de récré, mais en fait, c'est aussi un truc de virtuose. En tout cas, on peut aussi le voir comme ça, et ça se défend. Et ça, c'est très intéressant, je pense, de voir à quel point la place des machines est devenue centrale, mais ça, on le sait, et du coup, là, ça a modifié la place de l'homme aussi. Et j'espère qu'on sent ça aussi dans la série Beatmakers.
Tu as dit tout à l'heure la machine, après tu viens de dire les machines, et ouais. C'est vraiment les machines, et ce sont presque des personnes, quoi, les machines. C'est-à-dire que les beatmakers parlent de leurs outils comme des choses qui les ont influencés, des choses qui ont influencé une période de leur création, qui ont fait un revirement dans leur création, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement ignoré par la plupart des personnes qui connaissent pas la musique, et même par beaucoup de musiciens. C'est-à-dire l'influence que peuvent avoir des outils, des sampleurs en particulier, des synthétiseurs sophistiqués, etc., sur la création de ces personnes.
Complètement. La machine, elle permet un vocabulaire nouveau. Et avec ça, du coup, on peut inventer un nouveau langage. Et ça, c'est passionnant. Je pense que parmi tous les invités, chacun avait sa spécificité et ses qualités. Voilà. Et je pense que celui qui est très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Nicolas Repac, qui, lui, dit que voilà, le ventre d'un sampleur, c'est à la fois une machine à remonter le temps, une machine à se déplacer dans l'espace. Et puis, finalement, ça peut s'utiliser comme une guitare. C'est-à-dire qu'on le remplit de ce qu'on veut et donc de son propre style. Et que quand il fait un solo de guitare, il a des choses à lui qui reviennent tout le temps dans le solo, des choses qu'il aime faire, des choses qu'il aime entendre, et puis son sampleur, il l'utilise de la même façon, il va aussi le remplir de lui-même, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce nouveau vocabulaire qui est à la fois personnel, propre à chacun, et à la fois commun à toutes les machines.
Et on est dans un univers de création qui est un univers qui emprunte beaucoup aux autres, et souvent même certains des beatmakers admettent que c'est du vol, c'est-à-dire qu'ils savent même plus où ils ont pris un son, à qui ils ont pris un son, ou quand ils le savent, ils n'ont pas fait l'effort de déclarer leur emprunt. Et c'est une partie importante de la création aujourd'hui, et même depuis toujours, hein, c'est que c'est un remix permanent. Ça, il le montre et l'explique tous, quoi.
Ouais, complètement. Alors, on peut voir ça, je crois, de deux façons. C'est-à-dire qu'on peut le voir un peu à travers le temps et se dire que finalement, il n'y a pas grand-chose sur cette terre qui n'est pas du recyclage, qu'il n'y a pas d'éléments ajoutés et que nous-mêmes, nous sommes recyclage de molécules d'autres choses. Voilà. Donc, c'est un phénomène finalement qui est naturel. Et dans l'art, c'est, tu vois, depuis Lascaux, on ne va pas partir dans une thèse trop grandiloquente, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Et alors, à partir de quel moment c'est du vol, du remix, on peut appeler ça. On peut plaquer les étiquettes qu'on veut là-dessus. Et puis après, il y a aussi l'aspect, je pense, globalisation, mondialisation, aujourd'hui, où tout se touche, tout se rejoint. On peut travailler avec des musiciens qui sont sur d'autres continents, écouter leur musique, et donc plus ou moins volontairement s'inspirer d'eux. Donc il y en a qui le disent un peu honnêtement, qui disent oui, j'ai samplé, mais j'ai trafiqué après. Finalement, ils disent, leur propos est de dire j'ai travaillé, et comme j'ai travaillé, finalement, ce truc que j'ai volé au départ m'appartient un petit peu aussi, parce que moi j'y ai rajouté quelque chose. Et il y en a d'autres où c'est plus inconscient, comme Animal Son, le beatmaker de Booba, qui dit certains soirs, je vais boire un coup en club, j'écoute des choses, et puis le lendemain, je me mets à mon piano, je fais une mélodie où je me dis, ah, j'ai trouvé un truc super, et puis j'ai un copain qui arrive et qui me dit, non mais ça c'est le truc qu'on a écouté en club hier soir. Voilà, donc parfois ça se fait un peu inconsciemment.
Frenchy. Comment mettre de la sueur dans le digital? Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rencontrent Frenchy lors d'un passage éclair en France. Ils dévoilent, piste par piste, les secrets de l'énorme tube de Ragasonic et Supreme NTM, aiguisé comme une lame.
Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut.
Mais moi je me sens aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, lourd comme un char d'assaut. Revoilà le double haut à l'appel du premier round. Non, ne cherche plus les champions du underground.
L'idée du premier album de Ragasonic, honnêtement, c'était de les mettre sur des beats qui étaient des beats classiques de dancehall. Ça, c'est le riff du Stalag original, les cuivres. Il y a deux riffs de... T'as celui qui fait le rythme, tu vois, du beat, et puis t'as l'autre, t'as la mélodie. Ça, c'est la guitare que j'ai samplée de l'original, de la bande. Ça, attends, c'est une guitare. Il y a une guitare live aussi qui joue. Nous, on était fort, on mettait, tu vois, à chaque fois, je mettais au moins 2-3 kicks sur les... Pour donner... T'as toujours un kick low, assez bas. Après ça, tu mets un autre kick plus haut pour donner la force au beat. Là, je donne tous mes secrets, là. C'est dégueulasse. Et puis là, c'est la caisse claire. Je vais rajouter une caisse claire.
Il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est ce côté débrouillard. Et puis, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qui nous arrive. Et moi, je trouve que la musique machine, ce qu'elle a de bien, c'est qu'en effet, il peut t'arriver n'importe quoi finalement. Tu peux la transformer en musique. Et tu peux être n'importe qui. Elle va te permettre d'accéder à un son qui va te permettre de répandre ta musique au moins sur le net, de faire de la musique. Et à la fois, elle exclut pas non plus les virtuoses qu'on fait du conservatoire et tout le savoir qu'ils ont acquis de façon très classique va leur servir aussi. Donc finalement, elle regroupe pas mal de gens et ça, c'est assez chouette.
Il y a un truc qui était très drôle pendant les entretiens, c'est que et David et moi, on avait vraiment soif d'apprendre des choses et on se tirait la bourre tous les deux pour poser les questions, qu'on était toujours en train de prendre le moindre interstice de silence pour pouvoir poser des questions, parce qu'on était tous les deux passionnés, chacun dans notre domaine, moi plus vraiment sur le côté fabrication et lui plutôt sur quand même les portraits des mecs, parce qu'il y a aussi ça, on en a pas parlé, mais c'est des vrais portraits de gens qui ont des trajectoires, qui viennent de milieux sociaux différents, d'endroits différents, et donc on était tous les deux passionnés sur notre domaine et c'était un peu la compétition à qui poserait les questions qui l'intéressent le plus.
Dans votre fabrication, ça c'est ton rôle, il y a une ambition narrative très forte et éducative aussi, et presque ludique en fait, à jouer entre les sons originels et les explications des producteurs. Donc chaque fois qu'il explique, qu'il raconte, qu'il a ajouté telle chose, vous essayez en fonction de sa pertinence de mettre cette chose là pour qu'on comprenne de quoi il parle, etc.
C'est ça, et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est quelque chose, c'est une série qui n'aurait pas pu être faite autrement qu'en radio. Enfin, elle épouse totalement le média radio pour moi. Ça n'aurait apporté rien de plus de les voir, les machines, d'être en vidéo, je vois pas l'intérêt que ça aurait. En texte, c'est très compliqué parce que là, pour le coup, faire comprendre ce qui se passe dans la fabrication, c'est très dur. Donc voilà, je trouvais que la radio, c'était un média parfait pour expliquer la musique dans ses coulisses, dans sa fabrication.
Les 10 épisodes de Beatmakers sont à retrouver sur le site d'Arte Radio ou sur toute bonne application de podcast. Merci aux créateurs de cette série, Samuel Hirsch et David Comeyas. Samuel et David travaillent en ce moment à une deuxième saison de Beatmakers. Restez avec nous, petite pause dans l'atelier. Dans la seconde partie, nous serons avec François Bunel, cofondateur de la revue Américain.
L'atelier des médias.
Je m'appelle François Bunel, je suis journaliste et j'anime une émission qui s'appelle La Grande Librairie sur le service public sur France 5 le jeudi soir. Et avec Eric Fotorino, j'ai créé un journal qui s'appelle America, qui est un trimestriel qui ne durera que 4 ans.
Ziad Malouf.
François Bunel est un des grands journalistes littéraires français. Éric Fotorino, qu'il a cité, a dirigé pendant 4 ans le Monde qu'il a quitté pour cofonder un mensuel de référence, Le 1. Quand nous avons découvert que ces deux hommes unissaient leurs efforts et leurs talents pour lancer une revue consacrée à l'Amérique, nous avons naturellement cherché à en savoir plus. François Bunel est au micro d'Arnaud Contreras.
You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down.
4 ans parce que c'est le temps du mandat de Donald Trump et que pour plein de raisons, nous nous sommes dit que d'abord nous voulions faire un journal qui soit un collectif dont l'ambition est d'être un peu, vous savez, comme les mémorialistes d'une époque, mais sauf qu'on n'a pas le génie de Saint-Simon quand il brossait la cour du roi de France, et qu'on s'est dit, au lieu de se mettre à deux, Éric Fotorino et moi, on va se mettre à 100. Et on va faire appel pendant toute la durée de ce mandat, toute la durée de ce règne, nous allons faire appel aux meilleurs écrivains. Les écrivains américains, les écrivains français, des écrivains aussi d'autres nationalités, puisque Roberto Saviano, Ian McEwan devraient nous rejoindre bientôt avec des grands papiers de reportage. Et pourquoi que 4 ans? D'une part, parce que c'est, on le pense, la durée normale d'un mandat. Ensuite, on verra bien. Peut-être qu'il sera reconduit. Donald Trump sera peut-être réélu, qui sait. Il sera peut-être empêché, il sera peut-être lui-même démissionnaire. Tout est possible. Et puis, c'est ce que suggère Marc Duguin dans l'article qu'il nous a donné, la fiction qu'il nous a donnée, qui est une science-fiction. Il y aura peut-être quelqu'un pour appuyer sur la gâchette, comme c'est arrivé en 1963 à Dallas. Tout peut arriver avec Donald Trump. C'est la raison aussi pour laquelle on a eu envie de faire ce journal, qu'on n'aurait sans doute pas fait si Bernie Sanders ou Hillary Clinton avaient remporté l'élection, parce que Trump est un véritable personnage de roman, et que de manière totalement romanesque, c'est-à-dire déroutante et dangereuse, et parfois divertissante, les trois qualificatifs indispensables au roman, il va pendant 4 ans éternuer à la Maison Blanche, et croyez-moi, c'est tout le reste du monde, de l'Afrique à l'Asie, en passant par la France, qui va s'enrhumer. Ça s'appelle America pour deux raisons. La première, c'est que c'est effectivement les États-Unis qui aujourd'hui me semblent être le point, qu'on aime ou pas hein, d'ailleurs, le point névralgique de la planète. Il se passe énormément de choses capitales en Afrique. Il se passe énormément de choses du côté de la Russie, du côté de la Chine, du côté de la Corée. Bref, un peu partout dans le monde, évidemment, sans oublier le Proche-Orient. Mais bien sûr, toutes ces choses-là sont liées à ce pays-continent, qui est quand même le paradoxe incroyable. D'un côté, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, il est celui qui nous irrigue économiquement, culturellement, financièrement. Vous ne pouvez pas y couper. De l'autre côté, c'est celui qui prétend avoir le leadership sur le monde et qui fait en sorte qu'une élection soit volée. Comment pouvez-vous expliquer que dans un pays continent de 325 millions d'habitants, quelqu'un qui n'a pas gagné une élection soit élu, puisqu'il manque les fameuses 3 millions de voix à Donald Trump. Donc vous voyez ce paradoxe absolument dingue. Si les États-Unis n'étaient qu'un petit pays, on ne s'y serait pas intéressé. Il se trouve que c'est vraiment le pays leader, celui qui prétend donner des leçons de morale, celui qui prétend donner des leçons de style démocratique, celui qui prétend évidemment imposer son économie, son divertissement, sa culture dans le monde entier, et qui ferait mieux de regarder un petit peu ce qui se passe chez lui. Donc c'est pour ça que ça s'appelle America, et ça ne veut pas dire du tout qu'on s'intéresse que à l'Amérique. Ça veut dire au contraire qu'on voudrait beaucoup associer les écrivains de tout pays. Vous voyez, par exemple, dans le premier numéro, spontanément, j'ai demandé à Alain Mabankou, auteur né au Congo, célébré en France, mais aussi professeur aux États-Unis, puisqu'il enseigne depuis maintenant une dizaine d'années à Berkeley, à Los Angeles, de nous raconter un petit peu ce que c'est que cette Amérique dans laquelle il y a tant d'Africains depuis très longtemps. Donc ça s'appelle America et ça fait appel à toutes les plumes du monde entier.
Est-ce que ça fait appel à votre parcours littéraire, à votre parcours initiatique dans la littérature ?
Oui, de toute façon, il y a une passion. Il y a une part subjective, évidemment, dans le journalisme. Moi, j'y crois énormément. Je la revendique depuis toujours. Je ne crois pas du tout à l'objectivité. Je pense que c'est un concept de directeur de la rédaction fumeux ou alors de communicant. Il n'y a pas d'objectivité, vous savez, en journalisme. Vous me tendez un micro, vous avez lu ce journal, vous l'avez acheté au lieu de le demander en service de presse, vous avez eu envie d'y aller et vous venez avec votre histoire aussi à vous. Et on est dans une conversation, presque plus que dans une interview, là, en ce moment. Et puis, quand je regarde un livre, quand je le lis, j'ai pas la vérité, vous savez. J'ai juste mon bagage, effectivement, mes envies, mes passions. Je me dis que si je suis convaincu, je serais peut-être convaincant pour en parler. J'essaie de ne pas oublier que journaliste, c'est le même métier que passeur, prof ou libraire, passeur. On n'est pas là pour commenter le monde. On est là pour donner envie d'aller s'y plonger. Et America, c'est ça. C'est utiliser effectivement une passion pour la lecture et pour le voyage, le grand reportage notamment, l'immersion, la rencontre avec les gens. C'est ça le plus intéressant quand on va quelque part. Moi, les musées m'intéressent assez peu, je vais vous dire en soi. Quand je suis à Bamako, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me balader dans les rues. Quand je vais à Ouagadougou, c'est pas pour aller au Fespaco, même si j'aime beaucoup. C'est plutôt pour aller me balader sur la place du marché ou dans les banlieues, voir les gens. L'Amérique m'intéresse moins pour le Met et le MoMA, pour les éditorialistes de Los Angeles, de Washington et de New York sur la 5e avenue, que pour les gens de la rue, des banlieues, ceux qui, justement, sont devenus les électeurs aujourd'hui de Donald Trump, alors qu'en réalité, il y a un parcours personnel fait, justement, à la fois parfois de grandes souffrances, de grands échecs et d'une certaine désillusion. Et on en revient à ce qui est, à mon sens, le cœur d'América, mais le cœur du monde, le rêve.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
L'Amérique est une nation de migrants. Il n'y a que des bâtards. C'est ce que me disait John Irving. C'est ce que me disait Toni Morrison. C'est ce que racontent tous les romanciers américains. Il n'y a pas de race pure. C'est un mixte. Un mix prodigieux. Vous avez des Africains, vous avez des Asiatiques, vous avez des Européens. Tout ce beau monde est arrivé et s'est mélangé avec des gens qui étaient déjà là, même s'ils ont été largement génocidés, les Indiens. Et le tout constitue les fameux États désunis d'Amérique. Vous voyez, 52 États qu'il faut passer à la paille de fer et à la radioscopie en essayant de retirer les clichés, de leur donner une grande tape sur le museau aux clichés et aux préjugés. Et America, c'est aussi se dire, mais finalement, ce pays immense, pour quelle raison tous ces gens ont-ils bravé les océans, quitté leur famille, refondé une famille, traversé des espaces parfois brûlants ou glaciales? Peut-être parce qu'il y avait un rêve au fond d'eux, qui est le rêve aujourd'hui de tout le monde, à mon avis. Et pas seulement en Afrique, vous savez, en Europe aussi, on l'a, le fameux rêve américain. Qu'est-ce qu'il en reste? Il a fonctionné, on sait que c'est un modèle qui a fonctionné, on l'a vu hein, historiquement, pendant 50 ans ou presque, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été le leadership américain, ça a été la possibilité pour des gens qui n'avaient rien de devenir quelqu'un, parfois d'avoir des choses, mais surtout de devenir quelqu'un, de retrouver un self-esteem, de retrouver une estime de soi, une capacité à se refonder, un nouveau départ, pas de jugement, no statements. Il y a ça qui est bien avec les Américains. Aujourd'hui, après un début de siècle en fanfare, c'est-à-dire on a inauguré le 21e siècle le 11 septembre 2001 avec le plus grand attentat terroriste de la planète, puis ensuite une guerre totalement folle. Totalement folle. C'est-à-dire que, encore une fois, les écrivains le racontent bien. Toni Morrison nous donne de l'îlot dans le prochain numéro. Blessé dans son orgueil, l'Amérique invente une guerre. Aujourd'hui, tout le monde le dit, y compris d'ailleurs Colin Powell, qui était, rappelez-vous, le général en chef parlant d'armes de destruction massive, fantasmatique, et balançant une guerre en Irak. Donc on a un attentat le 11 septembre 2001, suivi d'une réélection de George Bush, des républicains. Républicains qui sont conservateurs, religieux, mais pas totalement dingue, finalement. Bien sûr, ils engagent des guerres, mais au nom d'une idéologie totalement contestable, mais qui a le mérite de ne pas être folle. Puis vous avez l'exact contraire, Barack Obama, quelqu'un qui était inconnu au bataillon 2 ans avant. Double mandat, progrès sociaux incontestables. Des échecs, bien sûr, Guantanamo notamment, le mélange racial aux États-Unis aussi, mais un vent d'espoir dingue. Comment est-ce que, en 15 ans, vous avez tout ça pour revenir ensuite, non pas d'ailleurs à George Bush, mais plutôt à un mix de Ronald Reagan, de John Edgar Hoover et de ce qu'on a connu de pire à l'époque du McCarthyisme. Le tout en 140 signes, parce qu'il faut aller vite qu'en réalité on est face à un aventurier qui représente le rêve américain, hein, quelqu'un qui est parti de beaucoup, mais dans une famille qui vient d'Allemagne, Donald Trump, qui s'est construit un empire, qui passe son temps à être dans ce qu'il y a de pire, et dans l'arrogance américaine, et qui aujourd'hui est l'homme que les Américains décident de porter à leur tête. Et ils savent qu'en le portant à leur tête, ils le portent également très loin, sur le tremplin qui permet de dominer le monde. Donc c'est ça, vous voyez, qui nous intéresse, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Plutôt que de refaire l'histoire au bistrot avec des copains, on s'est dit, on va envoyer les copains, c'est-à-dire les écrivains, nous raconter, pas juger, juste raconter, aller voir comment vivent les gens. Vous voyez, cette phrase extraordinaire d'Aragon, « Est-ce ainsi que vivent les hommes ?» Moi, c'est effectivement ce qui m'a motivé dans le journalisme. Aller voir en Afrique, quand j'ai vécu 4 ans, comment vivent les hommes.
Pauvre petit blanc, un reportage de Sylvain Sipel. Entre Chris et sa fille Tara, 19 ans, il y a plus qu'un hiatus politique. Comme beaucoup de jeunes étudiants, elle a adulé le démocrate Bernie Sanders. Elle se demande comment, ouvrez les guillemets, une brute comme Trump, un ignorant qui tient des propos outrageants sur les femmes, a pu être élu. Chris, lui, le comprend très bien. À l'usine, une moitié des ouvriers se fichait comme d'une guigne des élections. L'autre se partageait à part égale entre le Donald et Hillary. Les syndicalistes soutenaient la seconde. Mais beaucoup de simples ouvriers, surtout les jeunes, optaient pour Trump. Parce qu'un businessman saura corriger l'économie, et puis les politiciens de métier comme Hillary sont tous haïs. Qu'il ne soit pas républicain a beaucoup aidé Trump. N'étant pas affilié à aucun camp, plein de gens s'identifiaient à lui. On en parlait tous au travail, et le fait qu'ils avaient tous les médias contre lui, c'était très bon signe. Les médias sont pourris, moi je ne regarde plus les infos à la télé, ce ne sont que des mensonges. Cette défiance affichée envers la classe politique et les médias, on va la retrouver chez quasiment tous ceux qui nous diront avoir voté Trump.
Kids with guns, kids with guns, taken over by one belong, they mesmerize skeletons. Kids with guns, kids with guns.
On envoie des écrivains qui d'eux-mêmes d'ailleurs ont envie d'y aller. Russell Banks qui a envie d'aller voir comment vivent les mineurs de Pennsylvanie dans un prochain numéro, Malice de Carangal qui va voir comment se rassemblent au pied de la tour de Trump les uns et les autres, Jean-Marie Le Clézio qui part au pied du mur. Vous voyez, il y a tout ça qui est intéressant à aller sonder. Et puis, comment est-ce qu'on vit quand on est indien aujourd'hui? Louise Erdrich le raconte très bien à Standing Rocks, qui a été un des premiers lieux, un peu oublié par les médias. Mais dès l'élection de Donald Trump en novembre, ce sont les Indiens qui, les premiers, ont fait une grande manifestation à Standing Rock dans le Dakota, avant d'être dispersés plusieurs mois plus tard. Vous voyez, avant la marche des femmes, avant toutes les autres minorités. Qu'est-ce que ça veut dire être noir aujourd'hui, aux États-Unis, après Obama? Ça me passionne. Et qu'est-ce que ça veut dire être noir africain aux États-Unis aujourd'hui, dans un quartier comme Baltimore ou Détroit, qui sont les deux villes, je crois, avec Saint-Louis et Missouri, les plus criminogènes? Vous voyez, ça va être intéressant à suivre.
Quand on monte une revue comme ça, on engage ses passions, on mandate un certain nombre d'écrivains qui vont décrire la situation aux États-Unis. Mais est-ce qu'on a envie de prendre le pari d'aller vers des écrivains pro-Trump? Est-ce qu'on a envie de prendre le pari de, je ne sais pas, d'envoyer des journalistes conservateurs français vers cette Amérique de Trump? Et pas uniquement l'écriture qu'on attend. Vous m'avez cité un certain nombre d'écrivains où, évidemment, c'est la surprise à chaque fois qu'on les lit, mais on s'attend un petit peu à leur point de vue quand même sur Trump, qui est un point de vue souvent anti-Trump. Est-ce qu'on a envie de faire ce pari de, allez, on laisse carte blanche aussi aux pro-Trump?
Oui, absolument. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, pas de juger. Donc j'envoie des écrivains d'ailleurs plus que des journalistes, même s'il y a des reportages faits par des journalistes. Vous savez, la différence entre le reporter-enquêteur et l'éditorialiste, c'est que le reporter-enquêteur, s'il a bien fait son papier, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on sait ce qu'il ressent. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il ne vient pas avec une idée sur le monde, il va à la rencontre du monde et il nous en donne une idée. On ne sait pas, normalement, si le reporter est de droite ou de gauche, pro-Trump ou anti-Trump. Simplement, on sait qu'il y a mis, effectivement, même à la première personne du singulier, toutes ses tripes. Vous voyez? Et du coup, il devient votre frère. Et donc, vous le lisez en vous disant « il me parle de moi si j'étais là-bas ». L'éditorialisme m'intéresse moins parce qu'il ne va pas voir le monde, mais il nous explique ce qu'il en pense. Il se met un prisme, vous voyez, une espèce de filtre. Pourquoi pas, c'est intéressant, mais il n'y a plus que ça aujourd'hui dans la presse, il y en a partout. Donc, je n'aurais pas forcément l'idée, si vous voulez, d'envoyer un journaliste pro-Trump ou conservateur. En revanche, des écrivains dont la sensibilité, effectivement, est conservatrice, voire pro-Trump, oui, je vais vous donner un très bon exemple. Dans 3 mois, pour le prochain numéro, nous allons publier un texte de Guy Thalèse et un autre de Tom Wolfe, qui sont tous les deux républicains. C'est très intéressant. Tom Wolfe, habitué d'ailleurs de ce genre de provocation, vous savez, Tom Wolfe, c'est le bûcher des vanités, c'est aussi celui avec Guy Thalèse qui a inventé ce qu'on appelle le nouveau journalisme au tout début des années 60, c'est-à-dire cette façon de s'embarquer, d'être dans l'immersion totale et de faire des grands papiers subjectifs avec beaucoup de points d'exclamation, de dialogue, vous voyez, voilà, de rendre vivant le journalisme en lui donnant les techniques de narration littéraire. Bon, Tom Wolfe avait toujours dit qu'il était pro-Ronald Reagan, que justement, pour comprendre le monde de l'argent, il fallait aimer le fric, pénétrer ses couches sociales. Il a toujours dit ensuite que Bush, après tout, n'avait pas forcément tort. Et là, il est le premier à dire, mais hé, hey, heureusement qu'on a Trump. C'est un personnage de roman, tout peut arriver, ça y est, ça va devenir intéressant. Hillary Clinton, mais on va s'ennuyer à périr. Et puis en plus, on a déjà vu le roman, et on a déjà vu le film, c'était il y a 25 ans. Donc il y a de la provocation quand il dit ça. Mais je pense qu'il y a un fond aussi de vérité. Plutôt que d'avoir une dissertation de Tom Wolfe et Guy Thalèse, vous verrez, vous serez assez surpris, je pense, par ce qu'ils vont vous proposer de lire et qui justement essayent de sortir, si vous voulez, simplement du débat d'idées. J'adore le débat d'idées. J'ai une formation, j'ai adoré lire de la philosophie. Pour la grande librairie, je reçois très souvent des essayistes. C'est passionnant. Mais encore mieux que la philosophie, il y a le monde qu'elle est supposée décrire.
À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours...
L'atelier des médias.
Le cœur de l'homme.
Est-ce qu'il y a une idée de décentrage aussi, de regard sur l'Amérique, depuis l'Amérique du Sud, depuis le Japon, depuis la Russie?
Oui, exactement. Il y a une envie de déplacer le regard. Il y a une envie d'assumer une subjectivité. On est français et on comprend ce monde depuis notre point de vue de français, depuis notre histoire aussi, qui est aussi notre histoire politique, notre histoire coloniale, l'histoire de nos dénis, l'histoire de nos services secrets, l'histoire de nos écrivains aussi, et l'histoire d'une fascination contrariée. Encore une fois, la France, vous savez bien, fonctionne beaucoup sur les pour-contre. On est pro-américain ou anti-américain. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est plus complexe que cela. C'est qu'on ne peut pas simplement se contenter d'un regard qui passe par une analyse, fût-elle historique et menée par des experts excellents. On a de temps en temps, je pense, besoin d'un détour, d'un décentrage. Et la fiction, puisque c'est de ça dont il s'agit, l'Amérique est, allez, on va dire, à 70%. Un hommage à la fiction. La fiction nous permet ce détour. Alors, dans une époque où tout va vite, dans une époque où justement on voudrait nous faire croire qu'en 140 signes, vous allez délivrer une pensée, que vous allez régler des problèmes politiques par coup de tweet ou par coup de téléphone, que vous prenez votre avion Air Force One pour en 4 jours faire Israël, la Syrie, la France et la Russie. Tout ça, si vous voulez, ce vertige de la vitesse, ce vertige qui va aussi de pair avec, en France, une concentration des médias dans les mains de gens qui pensent que le long, le papier long, le temps long est révoqué et qui veulent à tout prix des sujets très courts, qui dit court dit beaucoup d'hyperboles et d'adjectifs, parce qu'il faut évidemment faire croire qu'il se passe quelque chose. Et puis, quand il se passe rien, soit on invente, ce qui gêne pas d'ailleurs Donald Trump. Il a aussi fait quelque chose qui est un peu dingue, Donald Trump, et on vient au cœur de notre sujet. C'est qu'il a érigé l'opinion au rang de vérité. Et ça n'a choqué quasiment personne. Ces fameux faits alternatifs, cette fameuse post-vérité, consiste à dire, vous pensez que je suis ceci, c'est votre opinion. Non, l'opinion est une chose, la vérité en est une autre. Il s'agit justement d'osciller et pour nous de naviguer entre ces deux choses. Donc vous voyez, il a, à mon avis, Trump réussi aussi à très vite imposer sa marque de manière mondiale. Nous, c'est aussi un rapport au temps, se décentrer par rapport à un temps hyper court, par rapport à un temps hyper rapide de l'information. Il y a l'information, mais il y a la connaissance. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'écouter la radio, de lire les journaux pour être informé, et puis d'avoir accès à travers des revues, des magazines. Alors nous, c'est un truc bizarre, on est entre la revue, le magazine, le MOOC, le livre. Mais on aime bien d'ailleurs ce côté hybride, totalement assumé, hybride, décentré, inattendu, là où on ne s'attend pas à se trouver. C'est un peu, moi, ce dont je rêvais comme exercice journalistique. Vous avez de la place, vous savez, les articles font 45 000 signes, 50 000 signes, 30 000 signes, 25 000, c'est-à-dire 8, 10, 15 pages. Parfois, vous en avez sur 3 pages. L'idée est vraiment de se dire, ce sont les écrivains qui vont nous raconter, avec leur sensibilité très différente, leur vision et ce qu'ils auront vu. Allez voir. Vous savez, je rêve d'un truc, je me dis, qu'est-ce qui serait passé? Rendez-vous compte. Imaginez ce qu'aurait pu devenir un journal qui, au moment où l'Europe s'embrasait et où l'Afrique était sous la coupe des colonialistes, le même journal dans lequel Rudyard Kipling, Stevenson, Conrad, London, Zola, Flaubert auraient été envoyés faire les couillons aux quatre coins du monde et nous rapporter des textes, vous vous rendez compte?
L'appel aux jeunes écrivains à l'aube de l'ère Trump, par Colm McCann. Cher jeune écrivain, nous sommes sur le point de nous voir dérober notre vocation, notre passion. Dans cette ère en crise, nous sommes frappés de stupeur, soumis aux circonstances. J'éviterai de répéter son nom, mais comprenons bien qu'il n'est pas seul. Nous avons permis aux bureaucrates, aux gestionnaires de fonds, aux politiciens et autres porteurs de chemises à col fermé de nous menotter. Nous sommes infectés par notre dépendance à cette drogue fétiche de la modernité qu'est la facilité. De bien des façons, le réel se reflète sur une surface plane, un écran, sans percer les contours du monde dans lequel nous vivons. Voilà le problème. Alors lève-toi de ce fauteuil, jeune écrivain. Ouvre cette porte, plonge dans la page. Tes mots ne sont pas un lot de consolation. Justifie ta fureur. Jouis des audaces de ton imagination. La littérature ne joue plus son rôle dans notre sentiment national. Nous ne considérons plus les écrivains comme nous le faisions quelques décennies plus tôt. Personne ne craint ce que nous avons à dire. Pourquoi ? Nous avons laissé nos voix se déprécier au bénéfice du confort. Notre boussole éthique est déréglée. Nous avons cédé devant la neutralité. Imprégnés d'une culture qui de plus en plus nous enferme dans ses cartes, nous géolocalise à outrance, nous ne savons plus nous perdre. Relève le défi. N'oublie jamais qu'écrire est l'expression d'une parole libre contre le pouvoir. Une forme d'engagement non violent, de désobéissance civile. Il faut se placer à l'écart de la société, se préserver de toute intimidation, contrainte, coercition, cruauté. Partout où le pouvoir s'efforce de simplifier, restitue la complexité. Partout où il fait des leçons de morale, exerce ton esprit critique. Partout où il se veut menaçant, sois pénétrant. L'écriture a cette capacité confondante d'entrer dans la blessure sans infliger aucune violence.
Est-ce que dans un pari comme la revue America, il y a de la place pour la découverte, pour les plumes pas forcément connues du milieu littéraire ou connues des médias, voire du grand public ?
Le principe d'America, c'est qu'à partir du moment où c'est bien écrit, on publie. C'est vrai qu'au début, dans les premiers numéros, on a envie aussi d'avoir ces grands noms qui nous racontent le monde. Et puis, parce que c'est d'abord aussi eux, les spectateurs, que nous avons l'habitude en tant que lecteurs de convoquer. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien, je suis très client de ça. J'ai envie de savoir ce que pense Roberto Saviano. J'ai envie de savoir ce que Jean-Marie Le Clézio aurait à dire. J'ai envie de savoir vous voyez, ce que Paul Auster ou James Ellroy auraient à nous raconter sur leur pays ou Stephen King. Et puis ensuite, oui, bien sûr, une fois que le magazine, et si le magazine réussit à s'installer, on a très envie d'avoir des gens un peu nouveaux. Vous savez, moi, je fais une émission de télé toutes les semaines, il y a 40 émissions par an, et sur une heure et demie, je donne la parole à 4 ou 5 invités. Ce qui veut dire que, bien évidemment, on peut voir l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire celui qui est la tête d'affiche. Enfin, bon, c'est devenu un peu banal de dire que si vous voulez que les gens vous regardent ou si vous voulez vendre votre journal, il faut quand même que vous fédériez un public large et il se fédère sur quelqu'un de populaire. Mais généralement, il y a une ou deux têtes d'affiche et puis il y a deux ou trois inconnus qui ont fait leur première télé. Je pense par exemple à Leïla Slimani, qui avait fait sa première télé à la Grande Librairie il y a 4 ans, puis qui a eu le prix Goncourt 2 ans après. Je pense qu'America peut fonctionner de la même manière.
C'est plus risqué quand même de mettre des inconnus pour une revue que pour une émission de télévision, non ?
Oui, c'est, enfin, de toute façon, c'est risqué. Voilà, c'est risqué tout court. Mettre des inconnus aujourd'hui, hélas, c'est risqué. Nous, moi, j'ai assez envie de sortir de cette espèce de dilemme entre célébrité et inconnu. Parce que, vous savez, soyons aussi modestes, malheureusement, Louise Erdrich, que je tiens pour un écrivain majeur, romancière... de Minneapolis et dont la famille est en partie allemande, en partie indienne ojibwé, Louise Erdrich n'est connue que des fans de littérature américaine. Marc Duguin, que j'aime énormément, qui me semble être un grand écrivain français qui prend le réel à bras le corps, n'a pas la popularité encore de certains romanciers qui vendent par camion. Donc vous voyez, c'est pas la célébrité qui m'intéresse. C'est les gens que j'ai pu repérer dans mes lectures et qui me semblent avoir d'abord un style, ensuite le talent de restituer ce qu'ils voient et d'embarquer le lecteur. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on a fait ça avec Eric, indépendamment de l'amitié? Parce que je trouve que le 1, cet hebdomadaire qu'il a créé il y a 3 ans maintenant, et qui donne la parole aux écrivains pour raconter le monde, est une réussite majeure. Majeure. C'est-à-dire que tout à coup... le point de vue d'un écrivain sur quelque chose qu'un éditorialiste m'a raconté le matin même à la radio m'éclaire sous un angle inédit, imprévu, décalé, décentré, avec ce fameux « je », « j-e », avec ce qu'il trimballe lui-même. Et on a pu assister comme ça à l'éclosion de plumes dont on se disait « mais finalement, qui est ce type ?» et en le lisant, s'apercevoir qu'on avait affaire à un maître. Moi, ça m'intéresse énormément, ça. Donc oui, il y aura la place dans América.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Merci à Arnaud Contreras pour cet entretien. Le numéro 2 de la revue América paraîtra dans quelques jours. Son lancement officiel est prévu le 26 juin. Pour plus d'informations, je vous suggère de vous abonner à la page Facebook de la revue. L'atelier des médias a été signé cette semaine. Arnaud Contreras, Simon Decreuse, Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous.
RFI.